VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Libreville au Gabon. La crise post-électorale du Gabon approche de son dénouement juridique avec une audience publique prévue aujourd'hui à 15h locale, 14h GMT. Cela sera fait en présence des avocats du président sortant Ali Bongo Ondimba et de son rival Jean Ping devant la cour constitutionnel. Il s'agit de la première audience publique depuis que Jean Ping, qui se proclame président élu, a déposé un recours le 8 septembre contre la réélection d'Ali Bongo. M. Ping a saisi la cour pour demander le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans le Haut-Ogooué. Nous n'avons pas été associés au recomptage, a déploré l'avocat de M. Jean Ping. Le gouvernement a sévèrement mis en garde hier Jean Ping contre une nouvelle flambée de violence s'il n'obtenait pas gain de cause devant la cour. Plus de 40 ans après son annexion à l'Angola, l'enclave du Cabinda, située entre les deux Congos, revendique toujours son autonomie. Difficile à obtenir, d'autant plus que le Cabinda produit 60% du pétrole de l'Angola, deuxième producteur d'Afrique derrière le Nigeria. Malheureusement, la majorité de ses 400 000 habitants vit dans la pauvreté. Leader dans cette revendication, le Front de libération de l'enclave du Cabinda ne baisse pas les bras, même si ses membres sont régulièrement victimes d'assassinats. André Kisambou, le secrétaire du FLEC, nous en parle. Il est au micro de Nanit Talani.
Jean-Baptiste Ngimbi a été retrouvé le 17 septembre 2016 par l'armée congolaise au bord de la rivière Chulwango. Donc il y avait quelques jours, on avait déploré son enlèvement par un commando à Pointe-Noire, où il vivait. Mais c'est pas la première fois. Depuis 2011, on déplore ce genre d'enlèvement par des commandos non identifiés jusque-là. Il y a des supputations parmi le cabinet accusant les forces armées angolaises. Tous les éléments de nos frères qui ont été enlevés, ils ont été enlevés à partir de Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire. C'est toujours à partir de Pointe-Noire qu'ils sont enlevés, après retrouvés morts.
Quel est le litige qui vous oppose au gouvernement angolais ?
Conflit qui est parti depuis l'annexion forcée du territoire cabinet à partir de 1975. Donc nous, cabinet, déplorons à ce jour la manière dont cette annexion a eu lieu, par la force.
Et quelles sont vos revendications aujourd'hui ?
Nos revendications sont simples. Nous, on aspire à la vie, on aspire à la démocratie, on aspire à la liberté. Donc c'est pour cette raison que nous, cabinet, nous appelons le gouvernement de Luanda, de se conformer à la résolution de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de ces peuples à disposer d'eux-mêmes, de s'organiser politiquement, administrativement, économiquement, culturellement, socialement sur leur territoire. C'est-à-dire nous aspirons à la liberté, à la dignité, à notre identité kabindaise.
Ainsi, vous pensez que l'indépendance du Cabinda est encore possible ?
Pour y arriver, nous appelons aujourd'hui le gouvernement de Luanda à un dialogue inclusif, incluant toutes les forces vives, politiques, civiles, de Luanda, de l'Angola et du Cabinda, quelle que soit leur opinion sur la question. Bien sûr, assistée par la communauté internationale. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui à Washington pour essayer de sortir le FLEC FAC de son isolement politique et diplomatique.
Et vous croyez que c'est possible aujourd'hui de s'asseoir autour d'une même table avec les autorités angolaises ?
Et c'est possible parce qu'il s'agit de la volonté humaine qui pourra nous aider à sortir de cette crise. Parce que je sais qu'au sein de nos frères angolais, il y a des hommes épris de paix et d'humanité. Au sein des cabinets également, on peut toujours dialoguer par la tolérance, par le dialogue. On s'assoit, on parle, on trouvera toujours une solution.
André Kisambou, le secrétaire général du Front de libération de l'enclave de Cabinda. Il était au micro de Nanit Talani. À Washington, il est 7h04.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 102.8 FM.
Retour au journal au Maroc. Le ton monte à l'approche des législatives du 7 octobre avec des tensions croissantes au sein du gouvernement de coalition entre islamistes et technocrates proche du Palais Royal. Dimanche, le ministre de la Justice, l'islamiste Mustapha Ramid, s'est plaint sur Facebook de ne pas être consulté par le tout-puissant ministre de l'Intérieur Mohamed Assad pour la préparation du scrutin, jugeant cela bien étrange. Cette charge du ministre de la Justice contre son homologue de l'Intérieur sonne comme un nouvel épisode d'une sourde lutte politique qui se joue à la tête de l'exécutif marocain, de plus en plus exacerbée à mesure que se profilent les législatives. Quatre passeurs présumés ont été arrêtés en Égypte après le naufrage d'un bateau de migrants qui a fait au moins 42 morts au large des côtes méditerranéennes de l'Égypte. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui des responsables de la justice et de la sécurité. Les quatre Égyptiens faisaient partie des 163 rescapés et ont notamment été inculpés pour trafic d'êtres humains et homicide involontaire, a affirmé un responsable du parquet de Rosette. Suite à des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU ce jeudi à New York, on fait le point avec notre envoyé spécial Timothée Donangmaï.
Parmi les réunions de haut niveau prévues ce jeudi à l'ONU, deux concernent les femmes. La première porte sur un nouvel agenda pour les femmes, la paix et la médiation, et l'autre sur l'autonomisation économique des femmes. Deux réunions qui s'inscrivent dans ce nouvel espoir que fonde la communauté internationale sur les femmes et les jeunes comme agents de développement. Mercredi, au Forum des affaires États-Unis-Afrique, organisé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain Barack Obama a rappelé que l'Afrique est le continent dont l'économie croît le plus rapidement au monde, avec une classe moyenne qui dépassera rapidement le milliard d'âmes. Il a invité les investisseurs américains à en prendre avantage pour créer des emplois de part et d'autre de l'Atlantique. L'épineux dossier de la crise syrienne a été évoqué au Conseil de sécurité mercredi. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé ce conseil à s'entendre pour aider les Syriens à faire la paix. Mercredi également, les chefs d'État et de gouvernement du monde se sont engagés à lancer une action multisectorielle concertée contre les causes profondes de la résistance aux antimicrobiens, un danger émergent qui menace la santé du monde. Timothée Donangmaï, New York, VOA Afrique.
La ville de Charlotte, en Caroline du Nord, a vécu mercredi une deuxième nuit de violence et un civil a été grièvement blessé par des tirs lors de manifestations déclenchées par la mort d'un homme noir abattu mardi par un policier. Le gouverneur de l'État de Caroline du Nord, Pat McCrory, a déclaré l'état d'urgence et a annoncé que la garde nationale ainsi que les policiers des patrouilles routières seraient dépêchés en renfort à Charlotte.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Turquie, le ministre du Travail, Mehmet Muzinoglu, a annoncé aujourd'hui le limogeage de 785 membres de ses services soupçonnés de liens avec l'opposant Fethullah Gulen en exil aux États-Unis, auquel Ankara a imputé le putsch manqué du 15 juillet. Plus de 100 000 militaires, policiers et fonctionnaires ont été suspendus ou écartés depuis le putsch manqué et 40 000 personnes ont été placées en détention. De violents combats avaient lieu aujourd'hui à Alep après une nuit de bombardements sur le quartier rebelle de cette ville de Syrie, devenue un enjeu majeur de la guerre, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les combats opposent les forces du régime du président Bachar al-Assad à une coalition de rebelles islamistes et de djihadistes dans le quartier de Ramoussa, dans le sud-ouest de la métropole syrienne. D'après l'AFP, des combats ont également lieu dans les provinces centrales de Homs et Hama. La guerre en Syrie, qui a débuté en mars 2011, après la répression dans le sang de manifestations pro-démocratie, a fait plus de 300 000 morts et poussé des millions de Syriens hors de leur foyer. Un chasseur américain s'est écrasé aujourd'hui au large de l'île japonaise d'Okinawa et son pilote a pu être secouru. C'est ce qu'ont annoncé les autorités américaines et japonaises. L'épave de l'appareil a été retrouvée en milieu d'après-midi à 150 km au large d'Okinawa, selon les gardes-côtes japonais. Dans un communiqué de presse, le corps des marines américains a précisé que le pilote du AV-8 Harrier avait pu s'éjecter de l'appareil et avait été secouru par les forces aériennes américaines. Et puis sachez que la paix est revenue dans la capitale de la RDC, Kinshasa. La vie a repris un cours presque normal hier, après deux journées de troubles ayant fait d'une trentaine à une centaine de morts dans la capitale. La vie a commencé à reprendre ses droits. Les transports en commun ont fonctionné. Les pompes à essence et les boutiques ont rouvert. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal sur VOA Afrique, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de la ravissante Nani Talani. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.